2 Chroniques, chapitre 9, verset 1er. La reine de Séba a pris la renommée de Salomon. Elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions. Et il n'y eut rien que Salomon ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions, et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et leurs vêtements, et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Or d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse ?» Je ne croyais pas ce qu'on en disait, avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi pour et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi du bois de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. On n'en avait pas vu de semblable auparavant dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle n'avait apporté au roi. Puis elle s'en retourna et elle a dans son pays, elle et ses serviteurs. Amen. Un calcul que je n'ai pas vérifié fait état du fait que si tous les Chinois voulaient voir la Joconde, hein, ce fameux tableau qui se trouve au musée du Louvre que j'ai vu, il leur faudrait faire 3 ans de queue si 120 d'entre eux pouvaient avoir accès à cette célèbre peinture toutes les minutes. Il leur faudrait 3 ans. Heureusement que l'accès à Dieu est quelque chose de plus facile. Croyez pas ? Important. Acte nous dit que Dieu n'est pas loin. Il est là en Jésus. Il est instantané. Il est à la portée de tous au même moment. Amen. Fabuleux. Eh oui. Alors c'est ce que nous révèle également Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 18. Lorsqu'il nous dit « Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Amen. Par la bouche d'Ésaïe, Dieu dit ceci, « J'ai exaucé, Ésaïe 65, verset 1er, « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je me suis laissé trouver. À ceux qui ne me cherchaient pas, j'ai dit « Me voici, me voici. » À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » L'épisode de la rencontre entre la reine de Séba et le roi Salomon illustre d'une manière frappante ce qui se passe au moment de la découverte de Dieu dans une rencontre personnelle, nous l'avons vécu pour la plupart d'entre nous, au travers de la personne de Jésus. Quand le Seigneur m'a révélé qu'il me connaissait, ça a été un moment extraordinaire, fabuleux. Quand ouvrant sa parole, je vois le film de ma vie défiler, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Dieu me connaît. Ça a été la réflexion que j'ai faite à mon épouse. Ce fameux soir où, rentrant dans mes maisons, j'étais incapable de rentrer parce que j'avais peur. Une maison que j'avais construite de mes mains. Et bien sûr, il s'était passé des choses terribles dans une nuit, la nuit précédente. Mais le Seigneur m'a montré une chose. Il voulait me rassurer en me disant « Je te connais. Je suis là. Il ne peut rien t'arriver. » De douloureux ni de malheureux, tant que je serai là. Et mes amis, c'est ça qui est extraordinaire. Alors Jésus est plus que Salomon, il est plus grand. Et il a lui-même établi le parallèle, je dirais, à faire entre la grandeur de sa personne et celle de Salomon. Matthieu 12, 42 nous dit ceci, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici, amen, parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ici, le Seigneur est là, il y a ici plus que Salomon, amen, il y a la personne de Jésus, il y a le Fils de Dieu, il y a notre Sauveur, il y a notre bien-aimé. Alors j'aimerais faire un parallèle entre Salomon et Jésus, même si cette comparaison bien, va avoir des limites, surtout quand on considère la fin de Salomon. Le royaume est divisé, lui-même va courir après d'autres dieux, d'autres divinités. On le sait, c'est son cœur qui l'a amené là parce que, il était partagé entre tellement de femmes. En tout cas, à propos de la royauté, l'apôtre Paul dira dans 1 Timothée chapitre 6, verset 15, que Jésus, c'est le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de tout. Que dire de la sagesse de Jésus comparée à celle de Salomon qui était déjà connue puisque sa réputation avait dépassé les frontières. Marc chapitre 6, verset 2, quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font par ses mains? Ou se font-elles par ses mains? Ou se font-ils par ses mains ?» Ah oui, Jésus était bien au-dessus. La richesse de Corinthiens 8, verset 9. « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, lui le plus riche. » Le plus riche de tous. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. Tu fais partie des gens les plus riches de la terre, mon frère, ma sœur. Et mon ami, il te suffit de faire une démarche personnelle, de venir à Jésus, de reconnaître qui il est, pour pouvoir l'accepter, tel qu'il est, comme le plus riche, comme le plus merveilleux. Et toi aussi, tu seras enrichi. Sa renommée, celle de Salomon avait dépassé les frontières, disais-je tout à l'heure. Luc chapitre 5, verset 15, à propos de Jésus, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Il y a toujours quelque chose au contact de Jésus, quelque chose qui se produit. Amen. Et je suis convaincu que ce matin, il se passe quelque chose tout simplement dans le cœur de quelqu'un. Ou de quelques hommes. Amen. À propos du caractère, Salomon est appelé le pacifique. Jésus est appelé, lui, le prince de la paix. Alléluia. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Je vais m'arrêter là avec les symboles et les typologies, mais parlons maintenant de la démarche intelligente qui va mener tout simplement à l'accès auprès de Dieu, qui va nous faire entrer dans l'intimité de Dieu, dans sa présence. La reine ne s'est pas contentée d'avoir entendu parler de Salomon et de sa réputation, qui était bien sûr à la gloire de Dieu, parce que Salomon vivait tout simplement pour plaire à Dieu. Elle ne s'est pas satisfaite des rumeurs et des avis qui pouvaient circuler, elle a désiré voir et se rendre compte par elle-même. C'est ça qui est important. Une démarche personnelle de foi. Venir tout simplement pour pouvoir, par soi-même, vivre quelque chose. C'est important. Le Seigneur nous demande de venir à lui. Il nous tend la main et il veut nous attirer tout simplement dans sa présence bénie. Il en est de même avec le Seigneur. Se limiter à des opinions qui circulent comme ça, ce n'est pas quelque chose de suffisant. Pour connaître quelqu'un, vous avez besoin d'entrer en communion avec. C'est la même chose avec le Seigneur. Si vous voulez le connaître, Adam connut Ève et on sait ce qui s'est passé. Il y a eu le fruit de cette connaissance. Eh bien, c'est la même chose. Entrez en communion avec Dieu. Connaissez l'Éternel. Approchez-vous de lui. Et il est intelligent de vouloir également se faire une idée par soi-même. Pour cela, eh bien, il faut entreprendre une démarche personnelle, honnête et surtout objective. Qui n'est pas venu avec des préjugés ? Tout simplement, eh bien, assister à une réunion ou assister ou entendre un témoignage et avoir plein de préjugés. Mais les préjugés y tombent lorsqu'on est dans la présence du Seigneur. Lorsqu'on est à son contact et qu'il se passe quelque chose dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, on ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Jésus qui transforme les mentalités. Amen. Alors nous devrions être en mesure également de pouvoir dire comme Pierre, Jean chapitre 6, verset 68, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ. » Vous avez connu que Jésus, c'est le Christ ? C'est-à-dire, c'est loin de l'éternel ? Est-ce que vous avez connu ? Nicodème également a eu la même démarche, une démarche, je dirais, et une recherche honnête, ainsi que Zachée. Un Zachée qui voulait se rendre compte par lui-même et voir qui était Jésus. Eh bien, la reine de Séba a fait pareil. Elle a voulu vérifier ce qu'elle avait appris, ce qu'elle avait entendu. Elle voulait le vérifier par elle-même. Vérifiez. Venez dans la présence du Seigneur. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Entrez en communion avec lui. Invoquez-le, priez-le. Mais faites une démarche de foi avec sincérité et vérité. Regardons également comment Dieu révèle la sagesse mystérieuse et cachée qui se trouve en Jésus. Luc chapitre 2, verset 52, je prends donc ce simple passage. Il nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Matthieu 13, 54, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» Et puis également, lorsqu'il se produit des choses, que les disciples eh bien, sont ébahis, il leur dit, voilà, à ce moment-là, Jésus va tressaillir de joie par le Saint-Esprit. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Et quelquefois, eh bien, il faut redevenir un simple enfant pour voir et pour comprendre, pour saisir. Je parlais de nos préjugés tout à l'heure. Eh bien oui, quand nous redevenons simples, comme des enfants, ah, qu'est-ce que le Seigneur a plaisir à se révéler et à se manifester. Amen. Paul dit dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe et puis de Colosse, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22 d'abord, « Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. » Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Et puis au Colossiens, chapitre 2, verset 2, « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, donc dans l'amour, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » Amen. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Vous voulez devenir plus intelligent ? Excusez-moi pour le mot intelligent, pardonnez-moi. Approchez-vous de Jésus. Connaissez-le. Faites une démarche de foi. Ayez la liberté de vous approcher de lui. Et puis vous allez connaître comme ça les trésors de la science, de la sagesse. Vous allez devenir quelqu'un de sage. Qui a envie de devenir sage ? Il y en a qui a levé la main au fond. Alléluia. Moi aussi, j'ai besoin de devenir encore plus sage. Amen. Alors, la reine de Séba a pris la renommée de Salomon. La Bible dit que la foi, elle vient de ce que l'on entend. C'est important. Hein? Alors, il nous est dit de la femme atteinte de la perte de sang, Marc chapitre 5, verset 27, « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. » C'est-à-dire qu'elle est venue à Jérusalem. Mais la démarche à faire qui nous concerne n'est pas, je dirais, géographique. C'est ce que Jésus va dire à la femme samaritaine. Et la femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous l'adorerez en esprit, en vérité. Amen. Alors le fait de venir est bien supérieur, et on le voit, on va le constater également, à l'attitude de rester au loin. Oh, moi j'attends. Vous savez, des fois le Seigneur nous parle et nous dit à l'avance. Mais attends, j'aimerais bien comprendre, j'aimerais bien voir. Allez, tends ta main et tu vas pouvoir toucher. Tu vas pouvoir être mis au contact. Tu vas pouvoir saisir, prendre. Amen. Alors oui, hein, Jésus a souvent invité à venir à lui. D'abord, Dieu est un Dieu accessible. Pourquoi se priver de cette démarche à faire simple, de faire un pas? Je dirais même un pas après l'autre. Parce que quelquefois, c'est ce qu'il nous faut faire. Il nous faut avancer un pas après l'autre. Quelquefois, on veut aller même plus vite. Un pas après l'autre. Amen. Jésus va dire à Thomas, Thomas, vous connaissez, Thomas, est-ce qu'il était vraiment incrédule? Vous ne savez plus, là. Thomas, il voulait voir. Et quand il l'a vu, est-ce qu'il était encore incrédule? Non. La différence, elle est là. C'est que quand on voit et qu'on ne veut pas dire « oui, c'est vrai », eh bien là, on est vraiment un incrédule. Mais Thomas, il va dire, Jésus va dire à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus également est le médiateur. 1 Timothée 2,5. « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Viens dans la présence de Jésus. C'est bien les frères et les sœurs, c'est bien le pasteur, mais viens dans la présence de Jésus et tu trouveras des réponses. Des choses qui te concernent, toi, qui sont pour toi. Mais viens dans sa présence, approche-toi de lui, la route est ouverte. Et comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 10, verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Amen. Est-ce que ce n'est pas une formidable invitation à venir dans la présence de Jésus? Amen. Alors la reine de Séba le vint pour l'éprouver par des énigmes. Éprouver Dieu, est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas? Vous avez vu mon regard? Éprouver Dieu par des énigmes. Lui dit oui, c'est pas mauvais, mais dans la mesure où le désir est sincère et respectueux. Vous comprenez ou pas? Dans la mesure où on est vrai, parce que je ne sais pas si vous, vous avez tout compris, mais moi, je n'ai pas tout compris. Donc, j'ai besoin qu'il m'explique, qu'il me fasse comprendre. Mais je viens avec un cœur vrai et je viens dans un grand respect. Moïse, ôte tes souliers. La terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Et les choses de Dieu, eh bien, c'est des choses saintes avec lesquelles il faut avoir un grand respect. L'Église, elle est sainte par la présence du Seigneur. Et elle est remplie d'hommes et de femmes sanctifiés par le sang de Jésus. Ces moments particuliers sont des moments saints. Et quand on vient à l'Église, on vient avec un grand respect. Il est question de la crainte que nous devons avoir. Mais c'est réellement le saint respect, un grand respect des choses qui concernent le royaume de Dieu. Par contre, tester Dieu avec arrogance sera, par contre, toujours une attitude qui va être rejetée par le Seigneur. Pierre va dire ceci, 1 Pierre 2,3. Vous avez goûté que le Seigneur est bon? Qui a goûté que le Seigneur est bon? Levez la main. Moi, j'ai goûté, je tiens encore à y goûter longtemps. Hein. Et je vais encore y regoûter. Donc, j'ai l'attitude qui doit être en adéquation. Je viens dans la présence de Dieu. J'ai un grand respect pour lui, une soumission. Amen. Et j'ai goûté que le Seigneur est bon, mais je veux encore y goûter. 2 Samuel 22, verset 31, nous dit que les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Voyez-vous quel avantage nous pouvons avoir, avoir cette attitude de respect. Bien sûr, d'éprouver Dieu, de lui demander. Quelquefois même de mettre une toison, de demander eh bien, qu'il fasse quelque chose, parce que je veux aller plus loin, Seigneur, mais excuse-moi, je tremble. Quand le pasteur m'a demandé de prêcher pour les premières fois, j'étais malade 48 heures avant. Hein. Plus le jour s'approchait, plus j'étais malade. Je connaissais par cœur les WC, hein, mes toilettes, hein, parce que j'étais malade. Mais je le faisais parce que c'était une demande et je le savais de Dieu. Quand le serviteur de Dieu me demandait donc d'apporter la parole, mais je le faisais avec un grand respect. Quand j'ai commencé, et je continue à le faire, à apporter les dons spirituels, ah, Seigneur, je demandais une confirmation. Seigneur, que ce soit un tel. Et c'était précisément la personne que j'avais désignée dans mon cœur, dans mon esprit, qui apportait le parler en langue. J'avais l'interprétation. Je disais, Seigneur, pas n'importe comment. Il faut avoir un grand respect des choses de Dieu. Amen. Ésaïe dira ceci, Ésaïe 28, verset 6, 16, pardon. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Excusez-moi, mais quand ma maman voulait me faire manger quand j'étais petit, elle me disait « Mange, l'appétit vient en mangeant. » Mange, l'appétit vient en mangeant. C'était difficile. Ma mère est allée tous ces boutons qu'elle avait de sa boîte à couture. Et puis, il fallait que je lui trouve les boutons rouges. Et pendant que je cherchais les boutons rouges, elle mettait une cuillère dans la bouche. Parce que j'étais tellement difficile, tellement pénible à faire manger. Je ne le suis plus. Hein. Voilà. Mais à l'époque, j'étais comme cela. Elle demandait au médecin, quand il avait donc un examen médical, est-ce que mon fils est en bonne santé? Alors il lui mettait, il est en très bonne santé, et le soulignait, pour qu'elle ait conscience que ça allait. Amen. Alors, voyons un petit peu, prendre appui sur lui. Et quand on goûte au Seigneur, comme nous l'avons lu, oui, le Seigneur est bon. Et on n'a pas envie d'autre chose. On n'a pas envie de se détourner de lui. Amen. Alors, notre ami donc, qui est venu auprès de excusez-moi, pour j'ai perdu le fil complètement, elle se rendit auprès de Salomon. Elle se rendit auprès de Salomon. Il est préférable de venir auprès du Seigneur, je disais tout à l'heure déjà, que de rester à distance. Matthieu 13, verset 2, nous parle d'une grande foule. S'étant assemblée auprès de Jésus, il monta dans la barque, il s'assit et toute la foule se tenait sur le rivage. Toute la foule se tenait sur le rivage. Mais elle était là, une foule qui s'assemble. Venir dans la présence de Dieu, comme elle l'a fait. Elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Les énigmes peuvent constituer quelquefois un obstacle véritable. Et il est bon de parler avec sincérité et vérité au Seigneur. Vous savez, des fois, on veut cacher quelque chose et on dit « personne ne le saura ». Ok, Dieu peut nous le révéler à nous, hommes. Mais déjà, lui, il le sait. Est-ce que toi, tu penses pouvoir cacher? Ben, en fait, c'est connu. Est-ce que ça vous déplaît? C'est la vérité. Marc nous parle de cette femme qui était effrayée, qui était tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle-même, qui vint se jeter à ses pieds, et elle lui dit toute la vérité. Femme atteinte de perte de sang, qui s'était faufilée dans la foule, qui n'aurait jamais dû entrer en contact avec Jésus. Son impureté lui demandait au contraire de s'éloigner de lui. Mais elle a osé venir. Elle a fait cette démarche de foi. Elle ne s'est pas laissée arrêter par les obstacles qui étaient nombreux, mais elle est venue. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit toute la vérité au Seigneur. Elle ne lui a rien caché. Alors en Jésus, nous trouvons tout ce que l'on peut chercher. Et ce sont quelque part les fruits de cet accès à Dieu. 2 Chroniques chapitre 9, verset 2, nous dit que Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. Rien que Salomon ne put lui expliquer. Luc 2, 47 nous rapporte que tous ceux qui entendaient Jésus étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et Jésus n'avait que 12 ans à ce moment-là. Il n'avait que 12 ans, mais il était capable de répondre. Pourquoi ? Parce qu'il était lui-même Dieu. Alors les questions essentielles, eh bien, elles ont vraiment leur réponse en Jésus. Toutes les réponses que tu attends, tu peux les trouver auprès de Jésus. Elles touchent à la connaissance de Dieu, au salut de l'âme, à la réalité du péché, à l'origine du mal, à l'au-delà, à l'existence de Satan, à son origine, et ce qui se passera également à la fin. Parce qu'un jour viendra où le Seigneur va revenir. Je dis souvent, il est le venant. C'est ce que dit la version littérale. C'est-à-dire qu'il est déjà en train de venir. La reine de Séba, elle a vu donc la sagesse de Salomon. 2 Chroniques 9, 39, verset 3. Elle vit la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses chansons et leurs vêtements. Et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. La sagesse de Jésus, eh bien, où est-ce qu'elle s'est manifestée le plus ? C'est à la croix. Non ? C'est à la croix. C'est par cette sagesse également que Dieu, eh bien, nous accepte dans sa présence parce qu'il peut nous pardonner. Jésus a réglé la dette du péché. N'est-ce pas là la plus grande des sagesses ? Eh oui. Cette sagesse également est aussi révélée dans les Écritures. Et tout ce qui est dit à propos du temple construit par Salomon, il y a un parallèle avec l'Église, qui est aussi, je dirais, là aussi une manifestation de la sagesse de Dieu. L'Église, c'est dans la pensée de Dieu, c'est dans la volonté du Seigneur. Ce n'est pas des hommes qui ont établi que, eh bien, voilà, on pourrait se réunir. C'est le Seigneur qui nous demande. Et nous sommes donc, nous, dans le corps du Seigneur. Nous sommes membres de ce corps. Les tenues des serviteurs symbolisent, je dirais, la justice dont Dieu revêt ceux qui croient. Le vêtement blanc. Le vêtement de la justice. J'ai été justifié par le Seigneur. Les fonctions représentent les ministères variés qui sont donnés à l'Église. Et merci, Seigneur, pour les ministères. Sont tellement différents les uns des autres. Quelquefois, ils se ressemblent. Mais gloire à Dieu, parce qu'ils se complètent. Amen. C'est ça la richesse de l'Église. Les mets de sa table sont une illustration prophétique de la table du Seigneur. Ces mets sont quand même particuliers. On l'a pris ce matin, le pain et le vin. Alléluia. Les degrés ou la rampe sont une autre révélation. Salomon a, on le sait, a procédé à diverses constructions, notamment la maison de Dieu, bien sûr. Mais il y a également la sienne, il y a celle de son épouse. Et pour les relier, bien, il fallait un pont entre ces demeures, c'était quelque chose de nécessaire. Et là, il y a également une image qu'il faut retenir, parce qu'il y a souvent une rupture, une coupure entre, je dirais, la maison de Dieu et notre vie personnelle. Je suis différent quand je suis à l'église que quand je suis à la maison, ou au travail, ou dans la société. Nous sommes la lumière du monde. Mon frère, ma sœur, tu es la lumière du monde. Mais que cette lumière, elle brille partout où tu vas. Amen. Je suis pompier, je n'ai jamais été pyromane, mais j'ai envie d'être pyromane en tant que pasteur. J'ai envie que le feu se répande de partout. Non, vous n'avez pas envie ? Qu'au lieu de vous embêter avec celui d'à côté qui est difficile, qu'il devienne comme vous. Aussi doux, aussi sage et aussi gentil que vous. Vous n'avez pas envie? Ben si, ça fait envie, hein? Amen. Salomon lui-même avait dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La montée, si vous voulez, je reviens à cela, la rampe entre notre maison et celle de Dieu, c'est une chose indispensable à établir, à bien construire, à bien bâtir. La difficulté de la traduction de ce passage peut permettre d'autres interprétations, mais on pourrait aussi traduire que eh bien, les holocaustes qu'il faisait monter. Eh oui. Alors, même cette difficulté, je crois qu'elle est inspirée de Dieu, même si on peut prendre les deux interprétations. Parce que la rampe qui va relier notre vie à la maison de Dieu, eh bien, quelque part, c'est un holocauste. Celui de Christ à la croix. C'est lui le sacrifice suprême. Avant de finir, j'aimerais regarder les conséquences eh bien, d'avoir trouvé accès auprès de Dieu. La reine de Séba a été convaincue. On ne peut pas dire autre chose. Hein. Je reprends ce texte de Chroniques, chapitre 9, verset 4. « Or d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. » C'est-à-dire que ça a provoqué une réaction chez elle. Hein, elle a eu une réaction, elle en a eu comme le souffle coupé, elle a été comme stupéfaite. C'est ce qui a amené sa réaction. Vous ne connaissez pas quelqu'un et vous avez une réaction comme ça, subie, il faut qu'il se passe quelque chose. Non, vous ne croyez pas? Eh bien oui, je crois qu'elle était vraiment stupéfaite. Oh, eh oui. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle a été convaincue. Elle a reconnu que tout ce dont elle avait entendu parler était vrai. Ah, combien le témoignage est important. Il faut que ce soit un témoignage vrai. Amen. Parce que si ce n'est pas vrai, c'est un petit peu exagéré ou un petit peu transformé, ça n'aura pas le même effet. Ce qu'on lui a rapporté était vrai. C'était authentique. Et quand elle est venue, qu'elle a vu, elle a été saisie. Elle ne s'attendait pas à ça. Eh oui, c'est Job qui dira ceci à Dieu, Job 42, verset 5, pardon. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Un roi, chapitre 10, verset 10, nous dit que la reine de Séba donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Pour venir à la femme samaritaine, Jésus va répondre à cette femme hein, qui lui disait « Mais où faut-il adorer ?» etc. Hein. Elle lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu, et je m'adresse à toi aussi qui peut-être ne le connais pas bien, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive, comme une source intérieure. » qui vient, qui rafraîchit ta vie, qui te donne une force, une dynamique particulière. Amen. Salomon, également, lui a donné plus qu'elle ne lui a apporté. On est toujours enrichi avec le Seigneur. Hein. On n'est jamais perdant. Même si quelque chose nous déchire le cœur, il ne va nous déchirer pas longtemps. Parce que le Seigneur va compenser, va nous donner quelque chose de bien meilleur. Et surtout qu'il ne sera pas là pour notre perte. Mais pour notre épanouissement. Un roi, chapitre 10, verset 13, le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Dans l'épisode de la multiplication des pains, nous retrouvons une similitude. Jean, chapitre 6, verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce, et il les distribua à ceux qui étaient assis et il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Je reviens à ce que je disais à l'instant. Avec le Seigneur, on ne sera jamais perdant. Est-ce que nous avons un Dieu riche ou un petit Dieu? Un petit Dieu? T'as besoin de mieux le connaître. Tu as besoin de venir plus souvent dans sa présence. et même quelque part de lui proposer des énigmes pour qu'il te montre sa grandeur. Et oui, alors, tout ce dont tu as besoin pour vivre, on a parlé de victoire tout à l'heure, pour marcher en vainqueur et pour entrer dans la victoire, c'est auprès du Seigneur. Il te donnera tout ce dont tu as besoin. Puis comme le dit Paul, Éphésiens 3, verset 20, il peut faire par la puissance qui agit en nous, voyez, notre témoignage, il va porter infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou passons. Alors oui, il peut faire par la puissance qui agit en nous. Parce que le Seigneur nous a choisis pour que nous le servions, c'est notre vocation, c'est notre appel. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Et pour finir, la conclusion, vous la voulez ? Elle est logique. C'est celle que nous donne la reine de Séba. 1 Roi 10, verset 8. Heureux. Qui c'est qui est heureux ? Heureux comme Ulysse ? Heureux tes gens. Heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Qui est heureux ce matin ? Levez la main. Le Seigneur veut l'avoir, la main. Hein ? T'es malheureux, baisse la main. Hein ? Si t'es heureux, lève la main. Alléluia, sois pas timide. Je me réjouis dans la présence de Dieu. Moi, je me suis réjoui jusqu'à présent. Amen. Et c'est vrai qu'on se fait du bien. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs. Parce qu'ils sont continuellement devant toi. Voyez, le secret, il est là. Se tenir dans la présence du Seigneur. Le disciple de Jésus, il a tout trouvé en Jésus. Pas ailleurs. Il a tout trouvé dans sa présence. Il est le plus heureux des hommes. Il voit la face de Dieu par le moyen de la foi, eh bien, dans la personne de Jésus. Il a accès tout simplement à la sagesse divine. C'est lui la sagesse suprême. Et en tant que disciple, c'est-à-dire élève du grand maître, eh bien, quelque part, je vais apprendre de lui pour lui ressembler. Jésus, c'est la sagesse suprême. Si je m'approche de Jésus, je veux devenir de plus en plus sage. Amen. Paul va dire ceci en Jésus-Christ. Sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et puis au verset 10, donc de Colossiens 2, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il te manque quelque chose, mon frère, ma sœur ? Oui ? Là qui font non. Tu as tout pleinement en Jésus ? Cherche pas ailleurs. Tu as tout dans sa présence. Amen. Paul va dire, en Jésus-Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, et tu as tout pleinement en lui parce que c'est le chef de toute domination, de toute autorité. Et je finis avec le psaume 65, verset 5. Heureux, celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Qui a été choisi ? N'est-il pas dit que nous sommes les élus de Dieu ? Amen. Tu as été candidat et tu as été élu. Et on a même lu tout à l'heure ce texte qui dit qu'il se révèle même auprès de ceux qui ne le cherchent pas. Il n'est pas fabuleux, notre Dieu. Il est extraordinaire. Hein ? Afin qu'ils habitent dans tes parvis, nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Être rassasié. Un jour, j'ai une jeune fille qui partait... je crois que c'est en Italie qu'elle partait. Elle partait faire donc une classe verte ou un voyage scolaire. Elle me dit, Bernard, est-ce que tu peux prier pour moi ? Je vais partir donc en voyage, c'est formidable. C'est bien de voir du pays. Mais elle me dit, voilà, ce que j'ai, c'est que j'ai peur. J'ai peur, je n'aurai pas de frères et de sœurs autour de moi. J'ai peur de tomber dans le péché. Alors je lui ai dit, non, je ne vais pas prier pour ça. Mais je vais prier pour que tu sois rempli jusqu'à déborder du Seigneur. Et s'il en est ainsi, eh bien, il n'y aura pas de place à la tentation. Ça va glisser. Ça va glisser. Mon frère, ma sœur, sois rempli jusque dans toute la plénitude de Dieu. et il n'y aura pas de place pour autre chose. Amen. On ferme les yeux. Gloire à Dieu. Ton nom, Seigneur, soit élevé encore ce matin parmi ton peuple. Qu'il soit élevé de plus en plus, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Merci, parce que c'est toi qui nous donnes et qui va bien au-delà de ce que nous sommes capables de comprendre, de saisir. Seigneur, je veux te bénir pour ta présence au milieu de nous ce matin. Fais du bien. Je te bénis, Jésus. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Si tu veux, après je vais avoir...